Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monique Sirène. Bonjour.
Bonjour.
Monique, vous êtes titulaire de l'orgue de la cathédrale de Die et vous êtes ici aussi pour les Amis de l'orgue, cette association organisatrice de concerts à la cathédrale notamment, mais pas d'autres, à d'autres endroits également. À votre côté, vous avez votre frère Jean-Michel Denis. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel, vous êtes donc violoniste et vous serez présent aussi le 30 juillet pour ce concert à la cathédrale.
Exactement.
Et à votre côté, donc Rachel Denis, bonjour.
Bonjour.
Rachel Denis, vous êtes violoncelliste.
Tout à fait.
Et également présente pour ce concert du 30 juillet. Alors, je me tourne d'abord vers Monique. Monique, cette association, les Amis de l'Orgue, une initiative pour promouvoir donc cet orgue et puis ses capacités musicales.
Oui, cet orgue a été restauré et cet orgue est magnifique parce qu'il n'a pas d'électronique, il est entièrement mécanique, c'est très rare de nos jours. Et ensuite, il a été donc sous la demande de Philippe Lefebvre, grand organiste de Notre-Dame de Paris. En 2010, il est venu à Die, il a dit « il faut faire restaurer cet orgue ». Et depuis ce temps-là, je me suis acharnée et on a réussi à trouver donc un facteur, un restaurateur pour cet orgue, Coirin, Gabriel Coirin, la famille Coirin. Et cet orgue a été inauguré de sa restauration l'année dernière, le 9 mai 2025, par Philippe Lefebvre, grand organiste. Donc, c'est lui qui est venu, de Notre-Dame de Paris, qui est venu pour inaugurer et faire le discours et jouer lui-même de cet orgue.
Et donc, effectivement, et depuis, donc, cet orgue a repris du service depuis cette année dernière, avec une succession de concerts, avec parfois des chœurs, dont vous êtes aussi chef de chœur, Monique.
Oui, c'est ça. Je dirige la chorale, le chœur de 10 cantates, ici même. Et nous avons fait un concert déjà le 17 mai. Et nous avons chanté donc avec la chorale de Saint-Julien, en Quin, avec Guy Anton. Et voilà, à l'orgue, Olivier Deck, qui est venu de Lyon. Et Olivier Deck a beaucoup apprécié cet orgue. Donc voilà, on continue. Et puis récemment, le 24 juillet est venu un organiste tchèque qui faisait toute la tournée en France et même en Europe. Il a joué aussi à Notre-Dame de Paris, donc Franzíšek Vazíšek. Il est venu donc le 24 juillet jouer son récital à la cathédrale.
Jean-Michel et Rachel, est-ce que vous avez une proposition musicale ?
Je pense que en cherchant donc le duo Alpha Sorion. Alpha, c'est le début, et Sorion, en basque, c'est le bonheur.
Parce qu'on s'est connus au Pays Basque.
Et le titre de ce...
Bon, on peut mettre Melodia de Arrabal. Je pense qu'on... Celui-là, il est bien et il est facilement trouvable sur YouTube. Thank you.
Arrivons à ce jeudi 30 juillet à 18h30, donc à la cathédrale, avec un concert Bach et Vivaldi, donc avec, comme je le disais, Jean-Michel Denis et Rachel Denis, et donc Monique au clavier, à l'orgue et au clavecin pour cette représentation. Alors, qu'est-ce qui sera proposé pour ce concert ?
Alors, ce seront trois concertos. Il y aura tout d'abord une œuvre pour orgue. Il y aura une toccata de Bach. Ensuite, il y aura au violoncelle avec mon épouse. Ce sera le prélude de la première suite de Bach. Moi, je vous réserve une petite surprise après. Ça, on en parlera juste au concert, mais ce sera vraiment la surprise. Et ensuite, il y aura un concerto de Vivaldi. C'est un concerto pour deux violoncelles, mais j'avais très envie de la jouer. Me mettre au violoncelle, c'est un peu tard. Donc, on a trouvé un arrangement pour violoncelle et violon accompagné d'orgue ou de clavecin. Donc, nous jouerons ceci. Ensuite, il y aura, je pense, une pièce pour clavecin. Que ma sœur jouera, mais ça, on verra bien. Elle nous annoncera à ce moment-là ce que c'est. Il y aura un autre concerto qui a été vraiment écrit, cette fois pour violon et violoncelle, de Vivaldi, toujours. Une autre œuvre pour orgue, je pense. Et nous terminerons par le concerto pour deux violons de Bach, qui sera joué exceptionnellement au violoncelle. Donc là, c'est une performance assez extraordinaire pour le violoncelle que de se prendre pour un violon. Mais je pense que mon épouse fera ça très très bien.
Justement, ces compositions, ces interprétations sont exécutées grâce à une partition.
Oui.
Et c'est une partition issue du compositeur même, ou alors il y a des arrangements opérés par les musiciens eux-mêmes.
Oui, la partition du concerto pour violon et violoncelle de Vivaldi est évidemment écrite uniquement par Vivaldi. Les deux autres sont arrangés de toute façon. Hein. Le violon ne peut pas descendre aussi grave que le violoncelle pour le concerto pour deux violoncelles. Et le violoncelle ne peut pas monter aussi haut que le violon. Donc ce sont des arrangements qui ont été faits par les sœurs Parnasse, je crois. Voilà, qui sont aussi violonistes et violoncellistes.
Actuellement, vous êtes en répétition, j'imagine, dans cette cathédrale. Il y fait frais.
Oui, tout à fait.
C'est une bonne invitation aussi pour les auditeurs à venir aller dans la fraîcheur, écouter donc Bach et Vivaldi.
Et la surprise.
Et donc, comment s'opère cette répétition ? Est-ce qu'il y a... Comment dire, une mise au diapason à faire.
Oui,
enfin, et puis un lieu aussi à aborder et peut-être appréhender le lieu au niveau de son.
Bien sûr, parce que la cathédrale est quand même résonne assez fort par rapport à une pièce où nous avons l'habitude de travailler. Donc il va falloir adapter notre tempo afin que les auditeurs puissent entendre clairement ce qui se passe. Je pense que si on joue un petit peu trop vite, tout va se mélanger. Donc, on va faire très attention à ça. Et notre répétition va être en grande partie pour cela.
Voilà, ça, c'est pour le 30 juillet. Et puis, nous passons donc à la date suivante, qui est celle du 7 août. Et pour cela, nous avons à notre côté Sarah Paon. Rebonjour. Donc, vous êtes chanteuse lyrique, alto, en tessiture.
Oui, tout à fait.
Et on peut peut-être parler de vous également, Sarah, puisque vous avez énormément de bagages. Au-delà du chant lyrique, vous vous êtes aussi amenée à un doctorat, je crois.
Oui, j'ai eu un début de parcours de chercheuse en philosophie. Donc avant de décider que la passion pour la musique et pour l'art l'importait, et donc de me dédier pleinement à ça.
Et également, avec ce chant, vous vous accompagnez de figures un peu acrobatiques, puisque parfois certaines interprétations se font sur un trapèze notamment.
Et oui, tout à fait, je suis également circassienne, donc circassienne acrobate aérienne. Et donc mon travail personnel a constitué dans le fait de trouver ces cheminements et cette rencontre entre la voix et les mouvements suspendus. Et donc, les défis, ça va être de comprendre quels sont les points d'appui, comment on arrive à lever, enfin voilà, à pouvoir chanter en se passant de son ancrage au sol et en positionnant son ancrage dans des éléments tout à fait différents de son corps et garder la colonne du souffle tout de même. Et voilà, et donner une interprétation dans les émotions qui puissent se rencontrer entre les mouvements et la voix et le chant.
Comme vous le dites, comme vous semblez l'expliquer, donc il y a peut-être aussi cette recherche de la voix en fonction de la posture du corps, la tête à l'envers par exemple. Qu'est-ce que ça apporte au niveau du chant ? Est-ce qu'il y a des nouveautés à explorer ?
Alors, on peut surtout, on se rend compte que si on déplace l'élément des ancrages, mais on fait attention à la colonne d'air, il y a aussi des libertés nouvelles qui peuvent se trouver. Et parfois, c'est dans la contrainte aussi qu'on trouve d'autres libertés. Je fais un exemple, par exemple, en faisant des aigus tout en tractionnant, forcément, les muscles, ils s'activent de la bonne manière pour que les enfin, voilà, c'est très technique, mais pour que tout se place de la bonne façon et dans les bons ancrages. Mais on a souhaité, avec Monique, mettre un élément acrobatique dans ce concert, mais malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais il y aura sans doute d'autres moments où on va vous interpréter des moments de chants suspendus et des musiques suspendues. Tête à l'envers aussi.
Et donc,
c'est prévu pour plus tard.
Il y a ce chant contre la gravitation, donc, quelque sorte.
Fait.
Est-ce que vous vient à l'idée de chanter en apesanteur ? Est-ce que ça amènerait une nouvelle dimension aussi ?
Et comme je disais, moi, ça a été plutôt amené du fait d'avoir cette pratique des circassiennes. Et donc, forcément, en tant que chanteuse, ça m'a... forcément, j'avais les désirs de voir qu'est-ce que ça faisait, cette rencontre de corps et des voix suspendues et des mouvements aussi tout à la fois. Et ça donne... Parfois, dans les contraintes, on trouve une nouvelle forme de liberté. Dans cette contrainte de où est-ce que c'est les points d'ancrage, comment on déplace les points d'ancrage, comment on déplace les points de suspension, comment il y a aussi, par exemple, un balancé dans les airs, comment ça se marie sur des moments très précis de l'écriture. Après, il s'agit de forcément concevoir une chorégraphie qui aille avec une écriture musicale pour qu'un tel mouvement tombe au bon moment pour apporter... un élan et non pas contraindre un effort musical à un certain moment pour que la voix ne soit pas influencée, ne soit pas forcément mise en difficulté par ces mouvements-là, mais plutôt trouver la connexion et les mouvements vertueux pour que ça aille avec les déploiements d'un air donné. Et j'ai toujours trouvé, depuis ma recherche personnelle, que les baroques, les airs baroques se marient très bien avec ce type de recherche de mouvements, des voix suspendues dans les mouvements.
La cathédrale de Die est faite de pierre, cette matière qui fait résonner ces vibrations, que ce soit la voix ou les instruments. Pour vous, Sarah, et puis pour Rachel et Jean-Michel, pareil, cet sentiment aussi de cet attrait pour la pierre, quels que soient les édifices qui sont réceptifs à ce genre de présentation artistique.
Merci Rachel. Oui, effectivement, nous, nos instruments, ce sont des vibrations, des résonances, et on aime les jouer pour provoquer toutes ces vibrations et toutes ces résonances qui créent des émotions. En fait, c'est très, très lié à tout ce qui est ressenti, Émotion, bien sûr, je viens de le dire, mais voilà, ça c'est le don de soi qui s'exporte vers les gens qui sont là et qui écoutent et qui nous amène aussi à provoquer des nuances ou des choses qu'on ne pensait pas forcément pouvoir faire. Donc c'est un échange entre la pierre, le bois et l'instrumentiste.
Et puis le public, hein, l'auditeur.
Forcément, bien sûr, qui reçoit tout ça. Mais on teste tout ça sans le public d'abord, pour voir comment ça réagit. Parce que, bon, une fois que le public est là, ça réagit aussi différemment, c'est sûr. Mais il faut quand même palper un tout petit peu l'atmosphère, savoir à qui on a affaire.
D'ailleurs, l'emplacement de l'orgue qui est venu de ces ateliers, a été désigné sur une nouvelle conception, hein, par rapport à la sonorisation et à l'acoustique de cette cathédrale. Oui. Et est-ce que vous, les instrumentistes, également, vous êtes à la recherche du point idéal pour pouvoir jouer dans cette cathédrale ?
Mais oui, toujours. Et là, avec l'orgue qui est sur le côté, on ne sait pas encore comment on va pouvoir s'installer tous les trois pour que notre Monique organiste puisse nous voir, voir si c'est possible comme ça. Donc on a et l'orgue et le clavecin à voir à quel moment on peut faire avec l'un ou avec l'autre pour bien se voir et pour que ça sonne vraiment le mieux possible avec tous les instruments.
Bon, le but, c'est qu'on joue ensemble, en fait. Et avec les échos, les résonances, si on est trop loin, ça peut poser problème aussi pour la connexion entre nous.
Bien sûr, hein, ce décalage de quelques fractions de secondes, hein, qui peuvent influer sur la rythmique, hein, et peut-être de partir un peu n'importe comment. Par contre, par rapport au chant, Sarah Paon, quel est l'emplacement idéal pour cet acte ?
Alors, pareil, on a eu un peu de difficulté dans cette. Enfin, la difficulté, c'est d'être connecté. Malgré le fait que, dès par sa position, ça implique malheureusement, l'organiste ne peut pas avoir un accès visuel et une proximité très importante.
On a un écran pour voir
tout à fait.
Ce qui se passe.
Tout à fait.
Mais, pour voir le départ.
Exactement. Mais sans doute, par rapport à une chanteuse, c'est plus difficile de voir le départ. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait entendre son inspiration pour pouvoir être ensemble. Et là, malheureusement, il n'y a pas de gestes. C'est vraiment à lui que ça se passe. Et l'écran ne va pas retransmettre ça, malheureusement. Mais donc, c'est nécessaire d'avoir une très bonne connexion et de développer sa connexion malgré les faits qu'on ne peut pas se voir. Et pareil, c'est de la même manière, on a dû, par rapport au programme, peut-être faire l'économie de certains morceaux qu'on adorait et qui étaient plus rapides, extrêmement plus rapides. Je pense notamment à des Handel, parce que la rapidité de la colorature pourrait être mise en difficulté par cet écho et on risquerait de ne pas être assez précise comme on le souhaiterait et comme on pourrait l'être avec un clavecin dans une autre acoustique, sans doute. Mais ce n'est qu'à partie remise.
Ces compositions sont d'un grand dénuement, j'imagine, dans l'interprétation, de manière à laisser le son se répercuter sur les parois, arriver aux oreilles des auditeurs. Donc il y a cette recherche du jeu de chacun, chacune, pour trouver la justesse de ton, de volume, de vitesse.
Oui, et d'ensemble, d'arriver à trouver la même intensité sonore. Avoir dans chaque pièce, c'est différent. Certaines pièces privilégient les sons graves, d'autres pièces les sons aigus. Donc il faut toujours s'adapter à chaque pièce que l'on joue.
Mais quoi qu'on joue, l'idée, c'est de mélanger nos sonorités et de fusionner pour qu'en fait, on fasse un instrument. C'est la magie de la musique.
Vous proposez donc, Sarah et Monique, des compositions, donc je ne sais pas si c'est maintenu, mais de Handel, comme indiquait Sarah, mais avec certaines difficultés, je crois. Il y aura du Vivaldi et du Purcell également, et bien d'autres, j'imagine.
Il y a l'air du froid de Purcell qui va être vraiment très très caractéristique de l'époque baroque et qui nous plaît beaucoup. Et puis il y aura aussi des quelques chœurs d'opéra que tu as prévus. Une partie de musique sacrée, une partie de musique un peu plus opératique.
Oui, et il y aura aussi quelque chose de moins, dont on a moins l'habitude à l'orgue, mais qu'après avoir essayé, on s'est dit que ça sonnait extrêmement bien, on était ravis de jouer ça. Il y aura aussi des pièces qui d'habitude ne sont pas du tout jouées à l'orgue, comme il y aura un Lied de Schubert, qui est extrêmement intense, et on va terminer notre programme avec l'Habanera de Carmen de Bizet. Mais oui, tout de même, il y aura beaucoup de baroque qui sonne très bien pour orgue et pour voix d'alto. Effectivement, c'est dommage parce que l'air du froid de l'air froid, qui est un extrait de King Arthur de Purcell, j'ai déjà eu l'occasion de le développer sur un trapèze, avec du mouvement sur un trapèze. Et c'est ça que j'avais montré à Monique et dont elle était enthousiaste. Et on a eu tout de suite envie de monter quelque chose ensemble de cette manière-là qu'on va faire prochainement.
Pour tous les trois, la question, Monique aussi, quel est cet amour de la musique? Est-ce qu'elle vous a pris très tôt, et particulièrement la musique classique?
Alors, la musique, pour ma part, ma sœur, un petit peu plus âgée que moi, a commencé avant moi. Elle a commencé le piano. Donc, je l'écoutais, Et puis moi, non, ça ne m'intéressait pas trop, jusqu'au jour où j'ai entendu un violon. Et là, ça a été le coup de foudre. Ah. Ça a été « je veux faire du violon ». Papa a trouvé que c'était un petit peu difficile, il m'a dit « fais autre chose ». Mais non, je voulais faire du violon. Finalement, j'ai réussi, j'ai tenu tête. Et j'ai continué. J'avais la chance, ma sœur jouait du piano et pouvait m'accompagner.
Tous les dimanches avec les grands-parents.
Ben oui, tous les dimanches avec les grands-parents, on faisait des petits concerts. Et excellent. On a continué à jouer très longtemps ensemble. Et puis ma sœur a touché le clavecin, donc est devenu claveciniste. Nous avons fait des tournées ensemble, violon et clavecin. Et donc, la vie a continué comme ça, chacun sa profession. Moi, j'étais professeur et violon solo d'un orchestre à Bayonne, et j'ai eu la chance de rencontrer Rachel, mon épouse.
Et donc, Rachel, vous, la musique aussi, très tôt est venue?
Très tôt, parce que mon papa était pianiste. Et ma maman peintre, rien à voir avec la musique, mais c'est quand même de l'art. Donc ça marche très bien ensemble aussi. Et mon papa jouait en duo avec un violoniste, justement. Mais par contre, moi, le violon, c'était pas mon truc. J'adore cet instrument. Mais je me voyais pas du tout en jouer. Et du coup, les cordes frottées, quand même, c'était pour moi quelque chose de très attrayant. Et ben, le violoncelle, quoi, c'est proche de la voix humaine, c'est... Pour moi, ça représente tout, tout, au-delà de la musique. Voilà, donc j'ai eu la chance d'apprendre le violoncelle tôt et puis de me dédier à cet instrument professionnellement très tôt aussi. Et je pratique maintenant depuis de nombreuses années et à chaque fois que je sors mon violoncelle, je me dis « Ah waouh, quand même, c'était le bon choix
». Notamment... Sarah, pareil, hein, vous, l'amour de la musique,
alors,
très tôt
ou... Oui, enfin, ça a toujours été en moi. Je me souviens qu'enfant, je passais des heures à chanter toute seule et à inventer des chansons. Mais ma rencontre avec les classiques est arrivée plus tard. Je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens et ni de mélomanes de musique classique, vraiment pas. Mais ça a été... alors, très jeune, vraiment enfant, je me suis passionnée de Queen. Énormément. Et je pense que j'ai été influencée par quand même l'écriture classique de Freddie Mercury et les goûts par tous les cœurs. Je pense que ça m'a influencée parce que je l'ai chanté énormément quand j'avais 8-9 ans, 10 ans. Ensuite, j'ai chanté dans un groupe rock au lycée, dans un groupe punk rock, vraiment autre chose. Et ensuite, je suis allée à une chorale parce que ça m'inspirait, mais je ne sais pas, c'était vraiment un peu par hasard. Et là, ça a été la rencontre avec la chef de chœur qui m'a dit tout de suite « Ah, mais la petite, tu as vraiment des possibilités » et qui a commencé à me donner des cours gratuitement parce qu'elle avait vraiment envie de faire développer ce qu'elle pouvait entendre. Et ça a été les débuts, en fait, cette rencontre. Et puis, par ailleurs, ça a été aussi le fait que j'ai toujours pratiqué du théâtre depuis que j'étais enfant, et j'adorais ça. Et donc, ça m'a paru une merveille de découvrir cet endroit dès l'opéra dans lequel les théâtres et la musique se rencontraient. Et donc, quand j'ai découvert ça, ça a été, je me suis engouffrée dans cette esthétique qui n'était pas du tout la mienne au départ. Mais au fur et à mesure, on est pris par ça, on est envoûté par ça, et ça devient un cheminement ensuite.
Voilà. Vous êtes dans le registre alto, hein, Sarah. Est-ce que c'est un registre plutôt rare chez les femmes, par exemple ?
Oui. C'est les registres où même quand j'étais enfant, je me demandais « Ah, mais pourquoi les autres enfants, ils chantent plus aigus ?» Et moi, je chante toujours plus grave. Mais oui, c'est plutôt plus rare. Il y a moins de personnes avec ce type de couleurs-là. C'est aussi donc un instrument délicat à développer, sans doute, parce que ça demande un déploiement et une mécanique plus délicate. Et ça demande plus de temps, sans doute. Et voilà. Mais ça donne aussi... On a la chance du fait que souvent, c'est plutôt les morceaux qui ont plus des pattes émotionnelles, on va dire, qui sont dans les oratorios notamment. Mais même c'est dans l'opéra, c'est les personnages qui sont caractérisés par... plus de noirceur, par plus d'émotions contrastantes, ou qui soient voilà, ou en couleur, et c'est souvent des femmes avec des forts caractères, ou des méchantes, ou des... voilà, c'est pas la jeune première, c'est vraiment l'inverse de ça, et tout à la fois, dans l'oratorio, il y a souvent, dans les passions, il y a les morceaux qui sont... qui quelque part, ils symbolisent plus la douleur et la profondeur qui sont écrits pour voix grave. Donc, quelque part, c'est un répertoire que j'adore, en fait. Et je me sens chanceuse d'avoir une voix qui aille pour ce répertoire-là.
Pour le concert du 7 août, donc, vous avez sélectionné des compositeurs, des œuvres, en fonction de cette possibilité entre vous, Sarah, et Monique à l'orgue. C'est un travail qui était évident, ou alors il a fallu chercher des compositions qui s'adaptent bien à vos capacités ou à vos...
On a trouvé un programme qui, avant tout, développe notre joie de jouer ensemble et de chanter ensemble. Et donc, ça n'a pas duré longtemps, notre recherche, mais c'était vraiment dans le plaisir et dans la joie d'alterner un peu d'orgue, le chant, trois morceaux de chant, un peu d'orgue, et vraiment avec des contrastes, comme tu dis, pour que ce soit intéressant, varié, alterner toutes ces... un peu de drame, un peu de joie, et à la fin, vraiment, Carmen qui se déploie.
On n'a pas parlé encore de celle du 22 août, avec ce chœur de stage musique et en chant d'été.
Oui, c'est exactement. Tous les ans, nous faisons ça depuis 20 ans à Die, et ça rassemble pendant 8 jours des choristes de toute la France, et même anglais, suisse, allemand, viennent, voilà, chaque année, travailler 8 jours. L'année dernière, on avait monté la Missa de Gloria, et avec toujours un orchestre à cordes, et des cuivres aussi, un grand orchestre, des cuivres, trompettes, trombones, voilà. Brian Moore, qui est un Anglais, qui a une maison à Die, vient régulièrement. Il y aura un timbalier aussi. Il y aura la chanteuse Catherine Bernardini qui va chanter cette année. Ça sera la messe jubilatoire, une musique un peu plus contemporaine avec des morceaux variés, pas du même compositeur, mais le Kyrie de Vierne, le Gloria de Gleicho, le Credo de Gounod, le Sanctus de Hives, un Agnus Dei de Bizet et un Agnus Dei de Barber. Pour le chœur. Et il y aura aussi un organiste de Lyon qui s'appelle Olivier Deck qui va accompagner aussi, notamment dans le Kyrie de Vierne. C'est un grand moment avec beaucoup de monde et on va travailler 8 jours entiers à la réalisation de ce concert du 22 août. Et nous ferons aussi un concert le 21 août, la veille, à Cray. Donc voilà, ne ratez pas ce grand événement. De l'année, enfin, pour tous les ans.
Ce stage musique se déroule à quel moment ?
Et juste avant, c'est-à-dire du 16 août au matin, on travaille avec les chœurs à 9h du matin jusqu'à 13h. Puis on reprend le soir vers 17h. Et l'orchestre nous rejoint le mercredi, après-midi, 14h. Et on va travailler maintenant dans la cathédrale, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, bien sûr, pour être aussi accompagné par l'orgue.
Et ces séances de répétition sont-elles ouvertes au public ou alors lieu
tout,
est...
tout le monde peut venir, mais c'est dans la salle polyvalente.
Ah, c'est dans la salle polyvalente.
C'est un très grand travail de technique vocale, d'apprentissage des chants, bien sûr, des œuvres. Mais les choristes ont beaucoup travaillé en avant. Parce que les partitions sont difficiles. Il y aura aussi un pianiste accompagnateur, Olivier Guériquet, qui nous suit depuis 20 ans déjà. Et donc, avec cette aide, on est très, très heureux de faire tout ça. Et le bureau de logistique se réunit tous les mois, depuis janvier, pour réaliser toute cette affaire. Pour tout ce qui est la partie logistique, l'hébergement des musiciens, des choristes, c'est toute une affaire qui
ça se règle plutôt année. Facilement d'année en année, ou alors parfois il faut chercher un peu plus de quoi loger.
Non, ça vient d'année en année, c'est plus facile.
Oui.
Et on trouve les choses à faire plus facilement. Les estrades, il faut mettre les estrades dans la cathédrale. Et donc, il y a des personnes qui viennent exprès pour ça. Il y a des enregistrements aussi qui sont prévus. Un éclairagiste aussi. Voilà, l'accord de l'orgue sera aussi établi juste avant. Et on espère avoir pensé à tout pour que tout se déroule vraiment bien.
Alors, je reviens sur le vendredi 7 août avec... le concert de la cathédrale de Die, donc j'ai l'affiche, étrange affiche d'ailleurs, puisque la cathédrale est agrémentée de murs supplémentaires. C'est un travail d'intelligence artificielle
Non, moi j'ai juste changé ma photo, c'est tout. Le travail était fait par je ne sais plus qui. Non, en tout cas, c'est pas moi.
D'accord. Non, mais c'était juste accessoire. Quelles sont les modalités Il y a un tarif variable en fonction des concerts. Celui de Sarah et Monique est entre 15 et 12 euros.
C'est ça.
Les billets s'achètent sur place.
Oui, tout à fait. Venez un quart d'heure, même demi-heure avant pour vraiment être sûr d'être bien placé.
Et puis, nous allons nous quitter avec... un extrait donc proposé par Sarah.
Et oui, je me disais, par rapport au programme qu'on va faire, peut-être dans ce qu'on trouve sur YouTube, il y a Voi che udite il mio lamento de Handel. C'est accompagné par orchestre. Ça, c'est extrait, c'est un live. Mais...
on peut dire aussi une chose, c'est que Rachel a un instrument assez exceptionnel. Elle a un violoncelle du XVIIe siècle, ce qui est quand même très très rare maintenant. Et que l'écouter, c'est toujours une grande joie.
Merci. Moi, je peux rajouter une chose, si je peux me permettre.
C'est, bien sûr.
C'est comme quand même la musique baroque, c'est un peu ce qu'on va voir en commun dans les deux programmes. Enfin, en tout cas, une grosse partie de musique baroque. Quand vous m'avez posé la question de ma découverte de la musique classique, quand j'étais enfant, il y a eu une découverte d'un disque qui traînait, et c'était l'Estro Armonico de Vivaldi. Mmh. Ah. Et ça a été un coup de foudre. Et je pense aussi que c'est une musique qui va à l'essentiel et qui est extrêmement facile, facile, dans le sens où ça touche très fortement et de manière très épurée, très intense aux émotions. Oui. Et donc, ça peut parler énormément aussi à des personnes qui ne sont pas habituées à écouter forcément de la musique classique, mais qui vont être épris d'émotions par rapport à ce type de répertoire.
Oui, moi, je voudrais rajouter quelque chose dans notre concert de Bach-Vivaldi. Nous avons fait une progression en jouant du Bach au départ. Et puis, on a vu que, vraiment, Vivaldi avait beaucoup influencé Bach, justement. Et Bach s'était éclairé de la joie de Vivaldi et de la rythmique de Vivaldi. Et vraiment, Vivaldi est quelque chose de fantastique dans tous les sens, et de ce que tu viens de dire, qui a influencé Bach aussi. Et tout notre concert est basé là-dessus, et on finit par une musique de Bach qui est éclairée par Vivaldi et qui donne toute sa joie italienne.
Mm-hmm. Moi, je peux dire aussi une chose de plus, c'est qu'en fait, tout part de là, et qu'on n'a plus rien inventé grand-chose après, finalement. Et que c'est intemporel, et d'avoir mon instrument qui date de cette époque-là, c'en est une mémoire vivante aussi, et ça permet de rayonner cette musique le plus longtemps possible, indéfiniment en fait. Et aussi d'avoir rencontré Jean-Michel, qui joue du violon, cet instrument que j'adore, mais que j'ai jamais voulu faire, et mélanger mon son avec celui de Jean-Michel, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie.
Je me pose une question. Peut-être vous retrouverez-vous tous les deux à jouer de l'octogone.
De l'octogone.
De l'octogone. Non. Excusez-moi, je suis un peu émue.
Ah, d'accord.
De l'octogone.
Vous savez, cet énorme instrument...
Ah, c'est l'octobasse.
Je monte sur ses épaules, alors.
Voilà, c'est ça. Tu montes sur mes épaules, moi, je tiens l'archer, et voilà. Toi, tu fais les doigts, là-haut.
Donc voilà, ils font aussi du cirque.
Voilà.
Finalement, ils vont aussi s'y prêter au fait de faire du cirque un jour.
On va prendre des cours avec Sarah.
On va prendre des cours pour ça. Hein.
Ça, je pourrais faire un petit pour redescendre. Et arriver par le haut.
Mais oui.
Ils vont faire de l'acrobatie musicale et aérienne.
Ah voilà. Oui, l'octobasse, ça, c'est un truc incroyable. Hein.
Oui.
C'est très, très rare de voir ça en concert. Je crois qu'il y en a une à Paris, à la Villette, mais dans les concerts, jamais vu ça.
Il faut vraiment être à l'unisson, hein, en tout cas.
Ah ouais, c'est très, très beau. Hein.
Ouais.
Très étrange, mais très beau.
Très beau.
Eh bien, je vous remercie, Monique, Jean-Michel, Rachel et Sarah, d'être venus sur RDWA pour nous parler de ces prestations de concert à la cathédrale de Die, hein, principalement. Je rappelle les dates. Le prochain concert, ça sera Bach et Vivaldi, jeudi 30 juillet à 18h30 à la cathédrale de Die, suivi du 7 août, toujours sur le même lieu, avec Sarah et Monique. Pour chant et orgue, avec des propositions d'Handel, Vivaldi, Purcell notamment. Et pour finir, cette chorale avec la messe jubilatoire. C'est pour quel honneur, messe jubilatoire ? C'est le titre de cette proposition ou alors il y a...
C'est le titre de cette proposition, tout simplement. Et parce que tout est joie et... calme intérieur, mais angélique dans Gloria. Il y a les anges qui chantent. Après, c'est très tonique dans le credo et c'est jubilatoire, vraiment, toute la joie.
Et ça sera le 22 août à 18h30.
Tout à fait.
Très bien. Je vous remercie tous.
Merci.
Merci. Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Thank you.
prezzo e pur lo sprezzo.